fonctionne dans la vérité. C'est sa vie, c'est comme ça. Ce n'est pas pour avoir des choses, ce n'est pas pour avoir un mariage, ce n'est pas pour être bien sur la terre. Non, c'est juste qu'il a choisi une race qui fonctionne comme cela. Peut-être on t'avait prêché qu'en venant Jésus, tu aurais de l'argent, tu aurais ceci, cela, tu seras protégé. C'est faux, bien-aimé. En venant Jésus, tu as changé de race. Tu es entré dans la race des enfants de Dieu. Ceux qui vont hériter des trônes célestes. Ceux qui sont les vrais princes de la terre à travers leurs prières, leurs intercessions, leurs prédications. C'est eux le vrai chef. Mais ce n'est pas un règne qui se manifeste comme le règne du monde. Jésus a dit à Pilate, « Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. » Si je demandais à des légions d'anges de venir, ils viendraient me défendre. Mais c'est Dieu qui veut que tu me crucifies. Voilà. C'est la décision de mon Père. Ce n'est pas parce que des malheurs nous arrivent que ce sont des défaites. Ce ne sont pas des défaites. C'est notre Père qui laisse faire. Parce qu'il a des objectifs dans nos vies. Des objectifs liés à notre race. Notre race, c'est une race de vainqueurs. C'est une race de gens de vérité. Et on a besoin d'être formé par les épreuves pour vivre la vie de cette race-là. Ce n'est pas des défaites. Et Asaph a réalisé qu'en voulant faire comme eux, il trahissait sa race. Et il s'est arrêté. Verset 16. « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. » Oui, ce fut pénible. Quand il réfléchissait, il disait, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi nous devons souffrir. Même le Seigneur à la croix, il a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il y a des moments où quand la galère est là, on ne comprend pas. Je ne dis pas qu'on comprendra toujours. Il y a des moments où on ne comprendra pas. Mais sachons aujourd'hui que ça fait partie de la vie de la race des enfants de Dieu. Ils ont une vie différente des autres. Verset 17. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Asaph, quand il a voulu faire comme les mauvais, il s'est arrêté. Il a senti qu'il changeait de nature et qu'il ne voulait pas de la deuxième nature. Il voulait rester un enfant de Dieu. Et en restant, il s'est dit, bon, je vais chercher Dieu dans la profondeur pour comprendre tout cela. Et quand il est allé dans les sanctuaires, c'est ça les sanctuaires, dans l'intimité avec Dieu, il a cherché la face de Dieu, il a prié Dieu pour comprendre tout ça. Il a dit, eh bien, alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment ? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Donc, nous répondons à la première question. Doit-on envier les méchants ? Asaph nous dit non, parce qu'il a fini par comprendre le sort final des méchants. Il a fini par voir comment les méchants finissaient. Il ne voyait pas parce qu'il était impressionné par sa souffrance à lui et l'apparente prospérité des méchants. Mais quand il a patienté, quand il a cherché l'intimité de Dieu, il s'est rendu compte que finalement, il regardait mal les méchants. En réalité, leur fin est malheureuse. Bien-aimé, ce n'est pas pour critiquer les humains, mais je suis obligé de vous citer des noms pour être pratique. Aujourd'hui, bien-aimé, quand vous voyez Mohamed Ali, est-ce que vous allez l'envier? Quand vous apprenez ce qui est arrivé à Michael Jackson, est-ce que vous allez l'envier? Est-ce que vous allez envier Chirac, vous l'avez vu marcher maintenant? Est-ce que vous allez l'envier? Bien-aimé, le sort final des méchants est grave. Ils finissent toujours mal. Vous savez combien de mafiosi sont tués chaque jour? Entre eux, ils se tuent. Aujourd'hui, toi, tu peux être dans un restaurant, tu vois des gaillards débarquer, te changer de table, te menacer, t'injurier. Et ils mangent tranquillement, ils s'en vont. Tu te dis, oh, voilà les méchants. Ils viennent, ils sèment le trouble et ils s'en vont tranquillement. C'est faux. C'est parce que toi, tu t'es contenté de la scène du restaurant. Sais-tu qu'en allant dans une autre rue, ils vont rencontrer d'autres méchants qui vont les abattre? Ça, tu n'as pas vu ça parce que toi, tu t'es contenté de ton problème dans le restaurant. Et souvent, nous, on s'est contenté du problème qui nous entourait. On n'a pas vu le sort final. Bien-aimé, Asaph dit, jusqu'à ce que, verset 17, il dit, alors j'ai compris le sort final. Nous, on se contente du sort temporaire, donc ce qu'on voit à l'immédiat. Mais Asaph a dit le sort final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méchant peut connaître 10 ans, 15 ans, 20 ans de prospérité apparente, mais il a toujours un sort final mauvais. Faites le travail, examinez le sort final des méchants. Examinez. Je me souviens d'un caïd marseillais qu'on appelait le Belge, Francis le Belge, un autre encore, qui était belge aussi. Il avait fait des coups et des coups, il s'était enrichi, et il a quitté Marseille pour commencer à vivre normalement à Paris, avec des sociétés, des boutiques. Normalement, il n'était plus dans le circuit, comme on dit. Un jour, il se promenait avec son blouson de cuir. Il y a une moto qui est venue et il y avait quelqu'un qui l'a abattu. Cet homme pensait avoir tourné la page par rapport à son passé. Il s'est dit, je ne suis plus dans les circuits de la mafia, je vais mener une vie respectable avec l'argent que j'ai gagné. Mais il y a toujours quelqu'un dont tu avais tué le frère un jour. Il y a toujours quelqu'un que tu avais escroqué un jour. Et comme il est écrit dans Deutéronome 32-23, ton péché te retrouvera. Un jour, cet homme-là a décidé de se venger. Et à ce moment-là, toi, tu étais dans une position de faiblesse. Cet homme qui était redouté à Marseille s'est fait abattre à Paris. Alors que quand tu es craint à Marseille, donc qui va oser te toucher à Paris? Mais puisqu'il avait cru que son passé était clôturé, il a oublié que le sort final des méchants, il ne savait pas que le sort final des méchants est toujours malheureux. Lui, il s'est dit, bon, je clôture mon passé. Il devait se convertir, venir à Jésus, mais peut-être qu'on ne lui a pas dit ça, mais je crois que tout homme sent l'appel de Dieu dans son cœur. Mais lui, il a décidé tout seul, mon passé, c'est fini. Mais ce n'est pas toi qui vas décider. La méchanceté est comme une semence. Quand tu la déposes, elle va produire. Quand tu as tué quelqu'un, c'est pourquoi Jésus a dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est comme si tu as ouvert une porte à des puissances qui vont aussi te tuer un jour. Et il a été tué tranquillement en marchant. Et il y a des gens qui sont passés en moto, ils ont tiré. Et il est mort. Alors qu'il pensait commencer une vie nouvelle. Le sort final des méchants est toujours malheureux. Malheureux. Nous, on a connu des musiciens qui ont eu beaucoup de succès, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, qui rencontraient même les présidents tranquillement. Mais vous allez apprendre qu'il est mort à 55 ans, il est mort à 57 ans, d'une plaie qui ne guérissait pas, d'une crise cardiaque. En réalité, c'est des morts qui sont des retours de manivelles liés aux fétiches qu'ils ont touchés, à la magie qu'ils ont touchée. Un jour, ton péché te retrouve. Le sort final des méchants est malheureux. C'est pourquoi nous ne devons pas les envier. Nous ne devons pas les envier non plus, parce que, là je ne vais même pas parler du sort méchant, je vais parler de leur prospérité apparente, bien-aimés. Dans certains pays d'Afrique, il y a des riches, des hommes forts, tu as ton terrain, il vient, il prend ton terrain. Et quand tu vas au tribunal, bon, comme il est l'homme fort du pays, bon, tu ne peux rien. Mais vous pensez que cet homme-là, il construit sa maison sur les terrains d'autrui. Même si c'est une belle maison. Est-ce que cet homme-là peut être tranquille? C'est vrai, comme la drogue, le mal peut t'anesthésier pendant un temps. Mais il y a toujours un temps de réveil. Vous savez, quand on fait le mal, parfois on peut être anesthésié et sentir ça bien. On voit ça avec beaucoup de jeunes. Ils se mettent à 10, à 12 pour frapper une seule personne. Là, quand ils font ça, ils sont comme anesthésiés. Et ils ont même parfois de la joie. Mais quand tu vas entendre la machine policière qui s'est mise en route, quand tu vas voir aux infos les parents du monsieur que vous avez tué ou mis dans le coma, en train de pleurer, quand vous allez voir des marches par rapport à cette affaire-là, tu te rends compte que tu as fait quelque chose de grave. Que tu aies 12 ans, que tu aies 15 ans, tu te rends compte que tu as fait quelque chose de grave. Le plaisir que tu avais maintenant en frappant en ce moment-là, ça part. C'est maintenant un lourd poids qui vient et ta vie est abîmée. Le plaisir en tapant, tu l'as eu pendant 15 minutes, mais la tristesse, tu l'auras pendant des années d'avoir été à l'origine de la mort de quelqu'un. Tu chasses quelqu'un d'une parcelle et tu prends la parcelle, tu construis ta maison. Comme tu es un des hommes forts, tu fais comme tu veux. Mais bien aimé, est-ce que tu peux être heureux? Est-ce que tu peux dire tranquillement à ton fils, « Fils, c'est notre maison. » Il y aura toujours une lourdeur. Ce n'est pas une vraie jouissance. Le méchant ne jouit pas réellement. Il ne jouit pas réellement de ses richesses. Il sait qu'il est en train de se réjouir en attendant. Le jugement, vous savez, c'est écrit, l'Esprit Saint convaincra le monde de jugement. C'est-à-dire que le méchant, il sait qu'il y a la vérité, un jour il sera jugé. Il le sait du fond de son cœur. C'est pourquoi la jouissance de ses biens n'est pas parfaite. C'est lourd. Donc, parce que si c'était parfait, il aurait le courage de dire à ses enfants, par exemple, « Votre papa, je suis riche, mais je vole. » Mais s'il ne peut pas dire à ses enfants « Je vole », il est conscient que ce n'est pas bon. Et forcément, sa jouissance ne sera plus la même. Au début, on peut jouir en faisant comme un effacement du méfait qu'on a commis. Mais ça revient toujours à la surface. Il y a une voix qui va te rappeler. Ce que tu es en train de faire là, tu as eu la possibilité parce que tu as fait du mal à l'autre. Et c'est pourquoi je peux vous dire, bien-aimés, n'enviez pas les méchants. Ils ne sont pas vraiment heureux. Vous savez, quand toi-même tu as planté tes carottes, tu as planté tes pommes de terre, quand tu les manges, tu es heureux. Mais quand tu as piqué les pommes de terre du voisin, tu les manges, mais bon, tu ne peux pas avouer à la personne avec qui tu manges que tu es volé. Donc tu n'es pas dans le bonheur total. Manger avec les gens qui vous servent des choses qu'eux-mêmes ils ont plantées. Ils ne cesseront de te raconter, mais ça c'est planté dans ce coin-là du jardin. Ça vient de tel endroit. Voilà. Ils sont heureux de vous présenter la nourriture parce que c'est à eux. Ils n'ont volé à personne. Ils ont la conscience tranquille. Mais quelqu'un qui a volé, est-ce qu'il aura le courage de vous dire ce que tu manges là, c'est volé? Parce qu'il sait que ça va gâter le plaisir. Donc lui, il n'a pas un plaisir total parce qu'il sait que ce qu'il fait est issu du mal. On ne peut pas, on ne doit pas envier les méchants. On ne doit pas envier les gens qui font des coups bas, qui font des manipulations parce qu'ils ne sont pas complètement heureux. Quand tu as manipulé les gens, tu peux te réjouir au début, mais à la fin, quand tu vas voir leur tristesse, leur souffrance, tu ne peux pas être complètement heureux. Il n'y a pas que le sort final des méchants qui doit nous décourager à les envier. Hein? Lorsqu'on voit comment Hitler a fini, lorsqu'on voit comment des gens comme les Mobutu, Hosni Moubarak, Ben Ali, tous ces gens-là, comment ils sont en train de finir. Il n'y a pas que ça qui doit nous décourager de les envier. Il y a aussi leur vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie agréable. Vous savez que la plupart ont des pactes sataniques. Certains sont obligés, peut-être 3 fois par mois, d'aller au cimetière, invoquer devant une tombe. Est-ce que toi, tu peux vivre une telle vie? Il y en a qui se promènent dans leur voiture avec un cercueil. C'est la magie, c'est comme ça. Il y en a qui sont obligés de boire du sang humain. En Belgique, on a arrêté les gens dans une secte qui s'appelle Abrasax. Dans cette secte-là, on sacrifiait les enfants, on enlevait les enfants dans la ville, un enfant on enlève et on va sacrifier là-bas. Et ces gens-là buvaient ce sang-là. Est-ce que toi, tu peux accepter d'avoir des millions et en même temps boire le sang d'un enfant qu'on tue devant toi? Est-ce que ça, c'est une belle vie, ça? Ce n'est pas une belle vie. On ne peut pas envier les méchants, bien-aimés. Il faut bien observer. Et quand vous observez, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas heureux. Ils ont peur à tout moment de mourir. Ils ont peur d'être frappés. Vous savez, il y a des jeunes, quand ils sont avec nous, ils sont devant nous, ils font le costaud. Mais amène-le dans une rue donnée, là où il y a le gang adverse. Il va trembler comme une poule mouillée, alors que toi, tu passes tranquillement. Parce que tu n'as fait de mal à personne, tu n'as rien à craindre. Lui, il a un jour tapé quelqu'un et il fuit cette rue-là. Donc il a des zones que lui ne peut pas entrer, mais toi, tu peux pas circuler partout. Bien, mais quand on était à l'école, on était jeunes, nous qui étions les moins forts, de temps à autre, tu es menacé, bon, ça passait. Mais les costauds, quelqu'un qui va régner pendant 3 ans, il fait la terreur. Un jour, il va venir un nouveau venu à l'école et il va oser faire encore ce qu'il faisait avec vous et il s'est fait taper. La honte est plus grande. Vous allez finir votre scolarité, il n'y a pas de grande honte. Mais lui, on se rappellera. Vous vous souvenez un tel jour, mais il a été frappé. Pourquoi? Parce qu'il faisait régner la terreur. Mais vous, on ne parle même pas de vous parce que vous n'avez jamais été terroriste. Mais lui, il était terroriste, il terrorisait toute l'école. Et puis un jour, il y a un élève qui ne semblait pas fort. Lui, il a cru qu'il était faible comme vous. Il a osé, il a été tapé. Tout le monde se rappelle de l'histoire. Même quand on vous devenait papa, vous allez vous rappeler toujours de ce qui s'était passé à l'âge de 16 ans, 15 ans. Un tel s'est fait tabasser alors que lui, c'est lui qui faisait régner la terreur. Le sort des méchants bien-aimés est toujours grave. C'est toujours grave. Et leur vie de tous les jours, c'est une vie d'inquiétude. C'est une vie d'inquiétude. Goliath, pendant 40 jours, a fait régner la terreur. Les gens tremblaient. Bien-aimé, le jour où David lui a dit, je vais te taper. Bien-aimé, même si Goliath a parlé comme ça, je vais livrer ton corps aux oiseaux et en disant, David, bien-aimé, il a dû avoir peur dans son cœur. Il s'est dit, quoi? Mais ce petit-là, il me dit qu'il va me taper. Donc, c'est qu'il a un secret quelque part. Vous imaginez un jeune dire à quelqu'un de 3 mètres, aujourd'hui je vais te tuer, je vais te couper le cou. Oh, il a dû se dire, s'il pouvait fuir Goliath en ce moment-là, il aurait fui. Il a dû se dire, oh, ce petit-là doit avoir quelque chose, parce que pour oser me défier, mais c'était trop tard. Tu t'es trop lancé comme le grand méchant, tu ne peux plus reculer, les gens vont rigoler. Donc tu es obligé d'affronter. C'était trop tard et il s'est fait tuer. Un jour ou l'autre, le méchant finit par se faire taper. Finit par subir des grands dommages. Un jour, tout ce qu'on fait de mal, dont on ne se répand pas, on finira par subir des grands dommages. Faire la méchanceté, ce n'est pas bon. Faire le mensonge, mentir, ce n'est pas bon. Vous savez, quand quelqu'un... L'avantage apparent des méchants, c'est quoi? C'est qu'ils ont immédiatement la chose. Quand quelqu'un ment et que toi tu crois à son mensonge, c'est que quelque part il a gagné la chose. On était avec un monsieur au Congo et il nous mentait alors qu'après 1 heure on allait savoir qu'il nous a menti. Mais pendant l'heure où il nous mentait, c'est lui qui était heureux parce que nous, on tombait dans le piège. Donc il gagnait quelque chose immédiatement. Mais nous, on a gagné, mais plus tard. Mais lui, il a gagné immédiatement. Donc le mensonge, la méchanceté te fait gagner immédiatement. Mais ne t'assure pas une continuité bonne. Ne t'assure pas une finalité heureuse. C'est ça le danger de la réalité de la méchanceté. Pendant une heure, les gens vont savoir, il est bon, il est bon, il est bon. Après une heure, on sait que tu es mauvais. Donc, tu n'as gagné que pendant une heure. Mais comme eux là-bas, ils sont des spécialistes, donc après une heure, il a déjà préparé un mensonge pour gagner deux jours encore. Mais tôt ou tard, tu n'auras plus de mensonge, tu auras tout dit comme mensonge. Et finalement, tu es coincé, bien-aimé. Le mal, ça ne paye pas. Même le monde le dit, le crime, ça ne paye pas. Nous ne devons pas envier les méchants. Nous ne connaissons pas ce qu'ils endurent comme vie. Vous savez, même les médecins disent que la haine et la colère créent des maladies dans le corps. Quand quelqu'un a la haine et la colère, il commence à devenir malade. Même les médecins le disent. Donc les méchants ne sont pas les hommes heureux. Ils sont malheureux. Mais ils ont choisi d'être méchants pour vivre. Nous choisissons d'être bons pour vivre. Choisissons la vérité. Et le Seigneur fera la différence. La vérité est comme une graine qu'on sème. Au début, les gens peuvent parler, dire c'est un pommier, c'est un oranger. D'autres vont dire encore non, c'est un manguier. Mais après 3 ans, on saura que c'est un pommier. C'est ça la vérité. Le mensonge et la méchanceté n'ont qu'un temps. Mais pendant ce temps-là, toi qui es dans la vérité, accepte la défaite apparente. Ne cherche pas à prouver que la vérité dépasse. Non, 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 non. Laisse. Il y a un temps où la vérité éclaire toute seule. C'est comme un arbre. Ayez toujours la logique de l'arbre. L'arbre finit toujours par montrer quelle nature il est, par les fruits qu'il va produire. Et attendons que ces fruits-là soient produits. Ne cherchons pas à tomber dans la méchanceté. Ne cherchons pas à tomber dans le mensonge, dans la flatterie. Il y a des chrétiens qui se disent, bon, puisque c'est comme ça, nous on va aller flatter les riches. Il y a même un pasteur qui dit, comme Jésus a sorti l'argent du poisson, lui il va aller chez les présidents, chez les riches, pour leur sortir l'argent aussi. Ah, bien-aimé! Mais ces gens-là ne sont pas des poissons. Tout ça, c'est parce que le chrétien se dit, puisque l'argent est chez les païens, on va aller chercher chez les païens. C'est faux. Il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. L'argent et l'or sont auprès de Dieu. Nous ne sommes pas obligés d'aller flatter chez les riches. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pleurons tous pour la Côte d'Ivoire. Nous pleurons tous. Ceux qui lisent le site Block Day, vois comment les chrétiens sont persécutés là-bas, souffrent, tués, massacrés, les pasteurs tués, les églises fermées. Nous souffrons tous, bien-aimés, mais nous payons notre corruption. Parce qu'à l'époque où Laurent Gbagbo était président, tout le monde le présentait comme chrétien, alors que tout le monde savait qu'il avait plusieurs femmes. Il y avait des veillées dans sa maison, comme si pour dire que, voilà, nous allons prier chez un chrétien. Il y a eu un système de corruption des pasteurs autour de Laurent Gbagbo. Et aucun pasteur, les pasteurs n'ont pas levé la voix pour dire non, ce que vous faites n'est pas de Dieu. Les chrétiens étaient contents que le pouvoir est entre les mains des chrétiens. Dieu ne nous donne pas un pouvoir humain, il nous donne un pouvoir spirituel. On n'a pas à se réjouir et dire non, c'est nous qui avons le pouvoir parce qu'un président se prétend chrétien. Nous, notre joie, c'est de savoir que notre Jésus est vivant. Il est là toujours pour nous défendre. On ne va pas compter sur un président. Beaucoup de gens avaient compté sur Bush chrétien. Non, mais il n'était pas chrétien. Et après, on a vu les dégâts avec l'Irak. les gens ont commencé à considérer que tous les chrétiens sont mauvais, les évangéliques, parce que Bush, leur frère, est en train de tuer des gens là-bas. Bien-aimés, tout ça c'est parce que nous chrétiens, nous voulons faire comme les gens du monde. Les gens du monde marchent dans une logique de clientélisme. On a notre frère au pouvoir, et bien nous tous on va profiter. Ah bon, et les gens se sont dit, ben, on a un chrétien au pouvoir en Côte d'Ivoire, alors nous tous on va en profiter. Même les top chrétiens, vous voyez le site top chrétien, le président de top chrétien, allez, photo avec Laurent Gbagbo. Alors, bien-aimé, au lieu de dénoncer, de dire non, le bien-aimé, il a de la sympathie pour les chrétiens, mais il n'est pas chrétien. Moi, un journaliste m'a posé la question au Congo, si le président te dit d'être son conseiller, tu vas accepter? J'ai dit non, parce qu'il n'est pas converti. Mais maintenant, si on veut m'arrêter, on m'arrête, bien-aimé. Mais je ne peux pas être conseiller de quelqu'un, alors conseiller spirituel. On m'a dit, est-ce que tu peux être son conseiller spirituel? Moi, j'ai dit non, parce qu'il n'est pas encore converti. Voilà. On va là être là à soutenir. Ah, Laurent Gbagbo, il y a eu même des prophéties. Dieu va intervenir. Tout le monde était là. Parce qu'on était en train d'agir en chrétien charnel. On voulait soutenir quelqu'un juste pour une étiquette du mot chrétien. Mais on ne regardait pas la vie réelle de cette personne. Qui avait deux femmes reconnues. Et d'autres encore. Et voilà maintenant comment on souffre. La Bible dit quoi? Toute autorité vient de Dieu. Ah donc, les autorités qui sont là-bas, finalement sont de Dieu. Viennent de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous pouvions dire la vérité, on ne l'a pas dit. On a voulu profiter du système. Les pasteurs avaient 5 voitures. 3, 4, 4. Il y a même un pasteur qui avait des costumes avec des ailes d'oiseaux. Bien-aimés. Et les gens étaient là. Les pasteurs étaient assis sur des trônes financés par le gouvernement. Ils allaient faire des veillées. Vous savez, dans ces veillées-là, quand vous sortez, on vous donne un chèque de transport, hein, une enveloppe pour le transport, alors que vous avez déjà des voitures, mais on vous donne encore une enveloppe pour le transport. C'était un soutien charnel. Ce n'était pas un soutien dans la vérité. Aujourd'hui, on paye, bien-aimé. C'est Dieu. Bien-aimé, imaginez que Gbagbo est passé. Tous ces faux pasteurs allaient dire, c'est quoi? Dieu est avec nous. Voilà. Notre fausseté, c'est la vérité en réalité. Voilà. C'est normal qu'un pasteur ait 3 femmes. Parce que les pasteurs de ces messieurs-là avaient aussi 2 femmes, 3 femmes. Donc ils vont dire, voilà. Attention, Dieu est avec nous. C'est normal qu'on ait 2 femmes. C'est une contrefaçon. Donc, Dieu ne pouvait pas supporter que la vérité soit dévoyée. Il fallait mettre un point final à ça. À toutes ces prophéties fausses qu'on faisait en son nom. Il fallait mettre un point final à ça. Aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés de Côte d'Ivoire disent, nous n'avons même plus envie de prier. Parce que nous souffrons trop, c'est la famine. Bien-aimés, quand vous ne souffriez pas, c'était à ce moment-là qu'il fallait dire « Laurent Gbagbo n'est pas un chrétien. Nous devons arrêter avec ce système de clientélisme autour de lui par des pasteurs. » On ne demande pas à ce que ce soit des faux pasteurs qui parlent, mais les vrais devaient dire « Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. » Maintenant, ils l'ont dit. Un pasteur l'a dit, le président de la... quelque chose évangélique là-bas, il a dit, on a eu tort, il a reconnu, on a eu tort, on a soutenu un système d'une manière humaine. En se disant, c'est un de nos frères qui est là-bas. Non, nous on n'a pas à chercher le pouvoir humain. Nous on a déjà le pouvoir spirituel, ça nous suffit. Nous savons que le pouvoir spirituel a la puissance sur le pouvoir humain. Tant qu'on est dans la vérité, rien ne peut nous atteindre. Nul ne tiendra devant nous. On n'a pas besoin d'avoir un président chrétien pour faire avancer l'évangile. On n'a besoin que de Jésus et du Saint-Esprit et de sa parole. Voilà ce dont on a besoin. C'est pour nous dire, bien-aimés, le sort final de l'erreur est toujours grave. Aujourd'hui, nous pleurons, nous avons pris du retard par rapport à la vérité, à l'Église en Côte d'Ivoire à cause de ça. Et il y a des populations qui souffrent à cause de mauvaises actions des Églises. Toute la Côte d'Ivoire souffre. Ce sont les églises qui sont responsables de cela. Parce qu'elles ont soutenu humainement un système à cause de besoins personnels, d'argent, de succès. Et tout un pays souffre à cause de ça, bien-aimés. le sort de la magouille est toujours mauvais. Ça finit toujours mal. Le mensonge finit toujours mal. Un jour ou l'autre, c'est dévoilé. Nous n'avons pas envié les méchants. Deuxièmement, doit-on faire comme eux? Encore moins, on ne doit pas faire comme eux. Parce que nous connaissons le sort des méchants et parce que nous sortons de la race de Dieu. Nous sommes de la race de la vérité. Nous devons aimer la vérité jusqu'au bout. Nous ne devons pas comme faire Michael Jackson comme qui a voulu changer de race. On a vu comment il a fini. Nous devons garder la race des chrétiens, la race des enfants de Dieu, des gens qui répondent au mal par le bien. Ah oui, il y a des gens même qui vont te dire non, il a exagéré, cette fois-ci il faut le corriger. Non, tu dis non, frère. Nous, on doit répondre au mal par le bien. Mais il parle trop. Qu'il parle, nous, Dieu nous défendra. Voilà. C'est la race des enfants de Dieu. Tu dis, mais tout le monde va voir le président pour qu'il lui donne, qu'il est en train de donner des fonds aux églises. Tu dis, non, moi mes fonds viendront du président d'en haut, du ciel. C'est ça, bien-aimé, la vérité. Nous devons professer la vérité jusqu'au bout. Parce que c'est notre race. Et nous aimons cette race. Nous aimons Dieu. Ceux qui sont venus dans l'église ou en Jésus pour chercher la richesse, la bénédiction, l'argent, ils se sont trompés d'adresse. Venons chercher la nature de Dieu. Venons chercher la royauté véritable, le règne véritable, le règne céleste. Et Dieu mettra à ta disposition même les gens de ce monde. Mais c'est lui qui va diriger, mais il peut, comme il est écrit, l'Éthiopien, il va te mettre l'Éthiopien à ton service. Il peut tuer l'Éthiopien pour toi, c'est écrit dans la Bible. Dieu mettra toutes ces choses-là à ton service. Bien-aimé, aujourd'hui nous faisons des concerts dans des endroits laïcs. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais cru qu'on nous autoriserait. Il y a même la directrice de l'école de mes enfants qui m'invite à chanter, qui nous invite à chanter devant les enfants. Alors que normalement en France, alors que c'est la musique chrétienne clairement exprimée comme nous on chante, ce n'est pas normal. Mais si tu as l'autorité spirituelle, tu as le dessus sur l'autorité humaine. Donc, on n'a pas été recommandé par un maire pour qu'elle nous accepte. On n'a pas été recommandé par un ministre pour qu'elle nous accepte. Mais la puissance divine lui a imposé qu'on aille chanter là-bas. Dernièrement, on a chanté à la préfecture pour la journée de l'esclavage qui a été parrainée par qui? Par la mairie, parce que c'est une adjointe au maire qui a fait le discours d'introduction. Mais nous, on a chanté, on a présenté l'évangile clairement. Il y a des gens même qui diraient, mais peut-être il y a un maire qui est chrétien qui les a... Non, il n'y a pas de maire chrétien, c'est des païens. Mais on a un Dieu tout-puissant qui est de Jésus. Amen. Et les portes vont s'ouvrir parce que Dieu est tout-puissant et nous comptons sur lui. Nous n'avons pas besoin de faire du clientélisme, aller faire de l'œcuménisme. Les gens vont venir dire, pasteur, si vous voulez être tranquille dans votre salle, évoluer, il faut savoir qu'il y a les renseignements généraux qui viennent, ils entendent ce que tu dis, essaye quand même de modérer, parce que sinon on va fermer la salle, tout ça, bien aimé. Moi, je n'ai pas peur de ça. Nous allons continuer à prêcher la vérité, on ne va pas modérer. Les modérés ne produisent jamais rien. Vous savez, ce sont les radicaux qui produisent des choses, parce que les radicaux ont des racines. Un arbre sans racines va tomber. Mais un arbre qui a des solides racines va grandir. Et les radicaux ont des racines, les modérés n'ont pas de racines. Nous allons dire la vérité sans changer les choses, sans embellir, parce que c'est la vérité qui sauve. Voilà une autre raison pourquoi on ne doit pas faire comme eux, parce que la vérité produit une bénédiction que personne ne peut t'arracher. Hein, nous connaissons le passage qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Or, la bénédiction par le mensonge va te bénir, va te réjouir. 2 ans, 6 mois, 1 heure, comme j'ai donné l'exemple de ce monsieur qui nous mentait. Pendant 1 heure, après une heure, on allait savoir qu'il a menti. Mais pendant 1 heure, il est à l'aise parce que bon, il joue sa comédie. Mais il va avoir un chagrin après. Alors que la vérité, quand ça produit la bénédiction, ça n'est suivi d'aucun chagrin. Tu es en train de manger, tu es tranquille parce que tu es dans la logique de la vérité. Vous vous imaginez un pasteur qui a des espions qui lui disent, tiens, un frère connaît telle situation, et puis quand il vient devant, il dit, parole de conscience, il y a quelqu'un dans la salle qui a tel problème. Mais sachant qu'on lui a déjà dit ça, vous pensez que même si les gens applaudissent, lui, il est heureux totalement. Non, il ne peut pas être heureux totalement. Il y aura toujours, vous savez qu'il y a certaines nourritures que tu manges, au début c'était bon, mais après il y a une amertume à la fin, sur la langue. Quoi. Il y a toujours ça, donc il ne peut pas être heureux totalement, parce que ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui donne la joie. Là, ce n'est même pas la main de Dieu, c'est qu'il a fabriqué, il a manipulé. Bien-aimés, ne manipulons pas les gens. Soyons transparents envers tout le monde. Ne cherchons pas à convaincre. Non, soyons transparents. Et si les gens ne sont pas d'accord avec nous, Dieu les convaincra. Mais on ne peut pas vouloir manipuler, paraître bon, paraître gentil pour se faire accepter par tout le monde. On ne peut pas se faire accepter par tout le monde. La Bible dit que si tout le monde dit du bien de toi, tu as un problème, c'est toi qui as un problème, tu es dans le faux. Parce qu'on ne peut pas être accepté par tout le monde. Donc, acceptons qu'il y ait des gens qui ne nous reconnaissent pas. Mais comment nous on peut savoir, bien-aimés, qu'on est bien? On doit vérifier notre comportement par rapport à ce qui est écrit. Tant que notre comportement est justifié par les Écritures, même si tout le monde nous a abandonnés, Jésus a été abandonné, on a même dit « crucifiez-le ». Mais il était tranquille parce qu'il savait qu'il n'a rien fait de mal. Même le juge qui le jugeait, Pilate a dit « mais ce monsieur n'a rien fait de mal ». Mais ça n'a pas empêché que toute la population dise « crucifiez-le ». Vous savez qu'est-ce qui est dit de Jésus dans Ésaïe 53? Il est dit que les gens l'ont considéré comme puni de Dieu. Donc quand les gens regardaient Jésus, ils disaient « voilà, Dieu l'a frappé ». Mais Jésus a accepté tout ça. Parce qu'il savait que la vérité a parfois un temps de gestation, un temps de maturation que les gens ne voient pas. Mais un jour, ça va briller. Et le jour de la résurrection, quand Pierre a prêché, il a dit, le Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et l'a établi Seigneur par la résurrection. Aujourd'hui, bien-aimés, nos débats avec les autres religions ne durent même pas. Il suffit qu'ils te disent, frère, monsieur, Jésus est ressuscité. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter devant lui? Quel prophète vous pouvez nous présenter devant Jésus? Lui, il a vaincu la mort. Mais quand on le faisait souffrir, quand on disait, sauve-toi toi-même, il prenait tout. Quand on disait, ah, Dieu l'a puni, bien, mais ça fait mal à cause de la vérité qu'on te dise encore, Dieu t'a puni. Donc tu te dis, mais Dieu, pourquoi tu ne me défends pas? Regarde même, on dit même que tu m'as puni alors que moi, je suis fidèle à toi. Et on a envie qu'il y ait une foudre qui tombe pour faire... Mais Dieu n'agit pas, il te laisse. Il veut te construire, que tu aies confiance en lui. Accepte que Dieu te défende. Vous savez, il y a des moments où, avec la chair, tu es dépassé par un automobiliste mal. Et il y a un petit rêve que tu as. Ah, ben si les flics pouvaient l'arrêter devant là-bas, s'il y avait peut-être un radar. Et ça, c'est parce qu'on veut à tout prix voir la justice de Dieu rapide. Rapidement se faire. Acceptons le temps lié à la vérité. Jésus a accepté ce temps-là. Jésus a accepté ce temps. Je veux clôturer avec l'histoire de Joseph. Nous n'allons pas lire parce que c'est long. Genèse 37. Quelle a été l'erreur de Joseph? C'est de dire la vérité. Il a fait un rêve. Il est venu voir ses frères. Il a dit, j'ai fait un rêve. Moi, j'avais une gerbe. Et j'ai vu que vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Lui, il a dit son rêve. Il n'a pas de prétention personnelle sur quiconque. Il a donné son rêve. Aïe, les frères ont dit, ce petit-là, il se prend pour quelqu'un. Il fait un deuxième rêve, dont l'interprétation, c'est que toute sa famille, non seulement les frères, même les parents aussi se prosternent. Même son père dit, mais attends petit, attention. Donc tu veux dire que moi, et ta mère, et tes frères, on va se prosterner devant toi? Mais où est la faute de Joseph, bien-aimé? Donc Joseph devait se taire simplement, alors que dans la transparence, comme je vous ai dit, la vérité c'est la transparence. Dans la transparence, il fait un rêve, il vient voir normalement ses aînés pour dire, oh, mes aînés, j'ai fait tel rêve. Il fait un deuxième, il vient voir ses parents, papa, j'ai fait un tel rêve. Où est le mal? Le mal, c'est qu'il a dit la vérité. Bien-aimé, parfois, nous allons subir des choses à cause de la vérité. Et quand il a dit cette vérité-là, conséquence, les frères l'ont jeté dans un puits. Ensuite, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Et il arrive chez Potiphar. Vous savez, pendant que parfois on subit des choses, nous avons quand même des signes de Dieu qui nous permettent de nous maintenir. Joseph, vendu comme esclave, déjà sauvé une extrémiste parce qu'on voulait le tuer, mais ils ont changé d'avis, ils l'ont vendu. Donc, signe de Dieu, tiens, j'ai été sauvé. Et il arrive, esclave chez Potiphar. Potiphar finit par le mettre chef de toute sa maison. Signe de Dieu. Malgré la volonté des humains, malgré la pression des humains, tu finis par devenir chef dans la maison de Potiphar. Mais ça ne s'arrête pas là. La femme de Potiphar voulait de Joseph. Joseph a dit non. Elle a monté une scène pour dire que Joseph a voulu la violer. Quel a été le mal de Joseph? C'est qu'il a dit non à cette femme-là. Je sais que beaucoup lui auraient dit, mais Joseph, fais ça seulement parce que cette femme-là va te créer des problèmes. Mais bien aimé, Joseph, qu'est-ce qu'il a répondu à la femme? Il a dit, femme de mon patron, moi je n'étais qu'un esclave, mais ton mari a fait de moi le chef de toute sa maison. Donc il m'a dit seulement une chose, que je ne touche pas à toi. Comment je peux être ingrat comme ça et te toucher? Alors que lui, il m'a fait chef de sa maison. J'étais qu'un esclave. Il a dit, vous savez, Joseph n'a pas dit seulement par rapport à son patron. Il a dit, si je le fais, je pécherai contre Dieu et contre ton mari. Donc Joseph a voulu défendre sa race. Il a dit, non, dans notre race, on ne fait pas de telles choses. Je ne peux pas, je trahirai ma race. Et ça l'a amené où? En prison. Et beaucoup de gens, quand tu es en prison, quand tu racontes, quand il a dû raconter l'histoire, ses voisins de prison ont dit, mais toi, Joseph, tu es vraiment bête. Tu étais là, qui t'a dit que ça allait se savoir? Il fallait seulement coucher avec elle comme ça. Tu as tout à la fois, tu as le patron, tu as aussi la femme. Voilà où la vérité t'a amené. Ton Dieu qui te défend maintenant. Joseph est resté toujours tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a oint. Bien-aimé, partout où tu es, l'onction de Dieu fait la différence. Ne cherchez pas les biens humains pour vous dire on a une grande salle, on a de bons micros. Non, cherchez toujours l'onction divine, l'approbation de Dieu. Et l'approbation de Dieu vient de la vérité. Ne cherchez pas des choses visibles qui vont vous rassurer que Dieu est avec vous. Non, cherchez toujours la vérité et Dieu approuve toujours la vérité. Et il fera la différence. Et Dieu a donné à Joseph la capacité d'interpréter les songes. Et ça a fait qu'il a été apprécié dans la prison jusqu'au jour où Pharaon a eu un songe que personne ne pouvait interpréter. Et on a dû appeler qui? Joseph. Et Joseph se présente devant le Pharaon. Il interprète le songe. Et il dit à Pharaon, c'est Dieu qui me donne l'interprétation. Il continue toujours à défendre son Dieu. Dans la gloire ou dans la déchéance, il continue toujours à dire, c'est Dieu seul qui est mon pourvoyeur. Beaucoup aujourd'hui disent Dieu quand il est pauvre, quand ils sont pauvres. Dès qu'il y a une bénédiction, ils commencent à dire, j'ai l'onction, ou je suis loin. Non, bien-aimé, c'est Dieu qui fait les choses. Défendons toujours le Seigneur. Et professons toujours le Seigneur. Et quand Joseph a interprété le songe, Pharaon a dit à Joseph, « Mais Joseph, tu me demandes de choisir quelqu'un pour gérer tout ça. Mais c'est toi qui m'as interprété le songe. Je ne vois pas quelqu'un de plus sage que toi. C'est toi qui deviens le deuxième après moi. » Après Pharaon d'Égypte, Joseph est devenu le deuxième, la deuxième personnalité. Et grâce à lui, Dieu a sauvé l'Égypte de la famine, a sauvé la famille de Joseph. Bien-aimés, nous et vous, nous savons que Dieu, quel était son souci? C'était Israël. C'était Jacob. Le souci de Dieu, ce n'était pas Égypte. Mais Dieu a sauvé tout un pays pour que ce pays vienne en aide à son petit peuple. Ils étaient environ 70 seulement. Mais Dieu a agi pour tout un pays. J'essaie de vous faire comprendre une chose, c'est que Dieu a utilisé toute une nation, les États-Unis de l'époque, l'Égypte, pour que l'Égypte puisse venir en aide à 70 personnes qui avaient l'élection divine. Dieu, je ne dis pas qu'il n'aimait pas les Égyptiens, mais son souci à lui, c'était que Israël puisse survivre, puisse subsister. C'était ça son souci. Et il a utilisé tout un pays. Alors pourquoi, bien-aimés, quitterions-nous la vérité si Dieu est capable d'utiliser tout un pays en ta faveur? Alors que vous n'êtes que 70, bien-aimés, moi je resterai dans la vérité. Je dis comme Josué, choisissez qui vous voulez servir. Voilà. Que chacun choisisse. Est-ce qu'il veut servir les prédications qui dit qu'il faut faire un peu de compromis, il faut faire des mélanges, l'écuménisme, tout ça, ou bien rester dans la vérité? Est-ce que vous voulez servir les miracles, l'ambiance dans l'église, ou vous voulez servir Jésus? Chacun doit choisir qu'est-ce qu'il veut servir. Est-ce qu'il veut se servir soi-même ou servir le Dieu vivant? Bien-aimés, moi, dans mon expérience, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, tel que je suis là, le jour où je choisirai le mensonge, je mérite d'être jugé gravement parce que j'ai vu de mes yeux la rançon de la vérité. Quand tu es dans la vérité, ça paye toujours. Ma prédication, c'est que la vérité paye. Que personne ne vous mente. La vérité, ça paye. Il y a un temps de souffrance lié à la formation qui a fait que Joseph, même premier ministre, il a continué à confesser Dieu. S'il n'avait pas été formé, il n'allait pas le faire. Nous connaissons le sort de Salomon. Joseph a été formé dans la souffrance pour pouvoir gérer la gloire plus tard. Jésus-Christ a été perfectionné dans la souffrance et il est aujourd'hui le roi des rois, seigneur des seigneurs. Ne méprisons pas ce temps de formation-là. Maintenons-nous dans la vérité. Comme j'ai l'habitude de dire, tant que tu es justifié par la Bible, tu es l'homme le plus heureux. Voilà. Les gens vont dire ce qu'ils ont à dire, mais la Bible te justifie. Les gens vont dire que tu es en train de manger une fois par jour. Mais tant que toi tu es justifié par la Bible, tu es plus heureux que la personne qui mange trois fois par jour. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup à dire, mais nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. La vérité, ça paye. Que personne ne nous trompe. Si nous persévérons dans la vérité, nous verrons la gloire de Dieu. La vérité va amener des difficultés et des souffrances liées au monde, puisque le monde ne veut pas la vérité. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on se décourage. Ne nous laissons pas petit à petit endormir par l'ambiance des garments du monde qui veut nous écarter pas à pas. Non, restons dans la pureté, dans la vérité. Comme Jésus est ressuscité le troisième jour, il a vaincu la mort. Il y a un troisième jour pour nous tous, dans quelle que soit la situation, où la vérité va éclater et la gloire de Dieu se manifestera. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci de nous aider à continuer à professer la vérité, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont poussés à mentir au travail. Ils sont poussés à envier les francs-maçons parce qu'ils semblent réussir. Seigneur, nous ne voulons envier personne parce que tu nous as appris le sort final des méchants. Nous ne voulons pas envier ceux qui usent de manipulation, parce que leur sort est toujours malheureux. Nous ne voulons pas envier ceux qui usent de coups bas, parce que leur sort est toujours malheureux. Nous voulons être de ceux qui sont transparents, des gens qui disent la vérité et qui sont prêts à l'entendre, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, viens nous soutenir, Père éternel, parce que si notre frère Asaph a failli tomber, nous aussi on peut tomber, mais c'est ta grâce qui peut nous maintenir dans la vérité, Seigneur. Aide-nous à demeurer dans la vérité, afin qu'à la fin de notre vie, nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à nous accrocher à la Bible, même s'il y a des prophéties qui nous condamnent, mais que la Bible nous justifie, Seigneur. Même si les circonstances semblent être à notre désavantage, que la Bible, Seigneur, soit à notre avantage. Alléluia. Que ton nom soit béni, Papa. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole.
J'aime ta parole, Seigneur.
Elle est la vérité.
Elle est la vérité. Sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire.
Pour ta parole.
Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmure.
Je crois en tes promesses.
Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime